France Inter, le 18-20.
Allons bon, voilà que l'abus de jeux vidéo, comme l'abus d'alcool, l'abus de drogue, l'abus de roulette et de blackjack, voici que les jeux vidéo sont aussi une addiction, une maladie reconnue par l'OMS. Depuis que cette décision a été rendue publique, elle a un succès fou auprès des gamers qui, pour la plupart, nous expliquent qu'il faut quand même pas pousser, auprès de l'industrie du jeu vidéo qui sent bien qu'on l'accuse toujours de tous les maux, la faute aux jeux vidéo qui se décline notamment à chaque pic d'une violence jugée incompréhensible, auprès des chercheurs aussi, gros succès qui, pour certains, sont dubitatifs, certains seulement. Parce que dans abus de jeux vidéo, il y a abus, il y a qui se désocialise, qui se scotche à la maison, qui oublie ses études, oublie son travail, il y a perte de contrôle, il y a priorité au jeu sur toute autre chose. Et bien sûr, ça n'est pas le cas de tout le monde. Il existe une addiction au jeu, elle se soigne, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas interdit les casinos. Et bien, il existe une addiction à l'alcool, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas instauré de prohibition non plus. Alors, à quoi va servir cette classification? À prévenir, à traiter, à sevrer quand c'est nécessaire? C'est quoi les critères pour éviter la panique des parents qui nous écoutent et voient leur fils ou leur fille passer des heures sur la console? Fallait-il donc cette classification? Fallait-il aller jusqu'à mettre l'OMS dans la boucle? On en discute ensemble ce soir, sans moi quasiment.
Hein. Fabienne Saintès. Le téléphone sonne.
Parlez à ma place, Anna, je vous en prie. Bonsoir et soyez la bienvenue.
Oui, bonsoir. Bah là, je vous entendais du coup. Et c'est reconnu. Ils ont mis des mots. C'est reconnu comme une pathologie, mais ça l'était déjà puisque les gens qui partent en cure pour l'alcool, entre autres, ou les stupéfiants, il y a aussi des cures pour l'ordinateur, les jeux. Donc c'est quand même reconnu, je pense, par les médecins depuis un moment.
Ok. Allô ? Oui, je vous entends. Voilà. Je vous entends. C'était l'essentiel. Allez-y.
Voilà. Moi, je vous appelais pour témoigner. Mon expérience à moi, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a une grande addiction aux jeux vidéo et que finalement, plus les hommes, hein, je crois quand même, c'est ciblé plus les hommes. Et effectivement, ça dure dans la vie. Moi, je peux témoigner d'avoir vécu avec quelqu'un qui était très addict aux jeux vidéo. Je lui ai fait deux enfants et effectivement, je suis objective aujourd'hui, il joue un peu moins, mais par contre, il est en permanence devant son écran d'ordinateur, en permanence. Donc des gens comme ça passent à côté de leur vie. Je trouve ça triste.
Et qu'est-ce qui se passe pour votre homme alors, Anna? Est-ce qu'il a vu quelqu'un? Est-ce qu'il discute?
Non, mais c'est sa passion en fait. C'est sa passion.
Ça joue sur votre vie, sur votre quotidien? Comment ça se passe? Non, parce que vous pouvez débrancher le Wi-Fi aussi, Anna, je vous le dis comme ça, juste au passage.
Je m'amuserais pas à faire ça, parce que là, ce serait un outrage pas possible. Non, au début, lorsqu'on a commencé à vivre ensemble, on avait deux pièces, donc on vivait dans la même, dans le salon, il y avait son bureau et son PC. Moi, j'avais même pas de télé, donc mais moi, je peins, je dessine, en fait, donc ça me posait pas vraiment de problème. Mais il y a eu un moment où quand je lui manquais de respect parce que je lui demandais pas s'il m'écoutait. Mais forcément, il m'écoutait pas, il était devant son écran. Donc là, je lui ai dit, écoute, tu vas aller dans un bureau et puis comme ça, ce sera moins contraignant pour moi. Enfin bref, je pense que les jeux vidéo, effectivement, à l'adolescence et même plus jeune, déjà, ça entraîne de la violence. Moi qui travaille avec les enfants, je le constate, ça engendre de la violence, ça banalise la violence. Ça, peut-être que du coup dans nos têtes, les guerres nous paraissent un peu plus normales, moins dramatiques. Mais ces hommes-là rencontrent quelqu'un, c'est pas évident.
Et on a compris à quoi ressemblait votre quotidien, Anna, est-ce que vous étiez en train de nous décrire. Et merci beaucoup pour cette entrée en matière pour discuter ensemble jusqu'à 20h au téléphone sonne. Bonsoir Laurent Carilla.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre addictologue à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Et bonsoir Emmanuel Martin. Vous êtes délégué général du CEL, le syndicat des éditeurs de jeux vidéo. Laurent Carilla, moi j'aimerais votre avis sur la situation d'Anna. Je dis ça sans plaisanter. Ouais. À un moment, on peut débrancher le Wi-Fi, non mais sérieusement. Ou envoyer son compagnon voir quelqu'un.
problème de débrancher le Wi-Fi, c'est que quand quelqu'un est accroché à un système, c'est quand vous le rebranchez, il reconsomme plus. Donc c'est pas la meilleure idée de tout débrancher. Et je le dis moi aux parents, mm-hmm. des jeunes qui me disent ouais, ils sont sur leur smartphone, ils jouent aux jeux vidéo, nanana. On va tout débrancher, tout ça marche pas.
Mm. Mais l'addiction, ça commence à quel moment? Est-ce que c'est une question de temps? Parce que là, effectivement,
non,
Anna décrit beaucoup de temps passé.
Non,
mais est-ce que c'est
temps.
Du temps ou
non,
pas?
Non, c'est pas que la durée. C'est pas que la durée. C'est plutôt une perte de contrôle avec la fréquence, l'initiation. La durée joue, mais la durée, c'est un des facteurs dans la perte de contrôle. Et puis, il y a toutes les conséquences que ça a en collatéral, si vous voulez, sur la vie de couple, la vie de famille, les résultats scolaires, etc. Donc, c'est plutôt ces éléments-là. Et c'est ce que souligne l'OMS, d'ailleurs. Hein. Mmh. Et la littérature scientifique aussi. Il y a eu quand même beaucoup d'éléments. Et comme elle disait, hein, je veux dire... Les addictions comportementales, il y en a beaucoup. On a trop tendance dans le grand public à dire « Ouais, je suis addict à ci, à ça, au sushi, etc. Mmh. » Mais il y a vraiment des éléments comportementaux auxquels on est addict.
Mais ça veut dire qu'il fallait mettre les jeux vidéo dans cette classification,
c'est la même
selon
question,
vous.
C'est le même problème qu'avec l'addiction sexuelle. On est dans le même schéma. En fait, c'est des comportements, pour certains, pas tout le monde, pour des gens qui sont vulnérables, des jeunes, des moins jeunes, qui bascule dans un comportement addictif.
Intéressant, c'est pour ça aussi que c'est plus des hommes que des femmes d'ailleurs. Parce que sur les addicts,
oui,
sur les comportements sexuels aussi, c'est nettement plus des hommes que des femmes.
Il y a une surreprésentation masculine dans les jeux. Il y a une surreprésentation. Mais ceci dit, moi je reçois des femmes qui jouent à certains jeux, je ne citerai pas les noms, mais qui viennent me voir pour ça. Quoi.
Je ne vous ai pas oublié, Emmanuel Martin, juste pour terminer sur cette introduction, c'est quoi la différence? Vous citiez la comparaison avec les addictions sexuelles. En quoi c'est différent de l'addiction aux jeux, au casino par exemple, réellement?
Vous avez, c'est des comportements à la base qui font plaisir. Jouer, ça fait plaisir. Jouer aux jeux vidéo, ça fait plaisir. C'est très bien de jouer aux jeux vidéo. Après, c'est comment on joue. La sexualité, c'est très bien. Et en fait, la question de la sexualité, il y a des gens qui sont hyper sexuels et qui n'ont pas de pathologie. Il y a des gens qui sont des hardcore gamers et qui n'ont pas de pathologie. Mais il y en a qui sont pathologiques.
Emmanuel Martin, quand vous entendez ces définitions-là, quand vous avez entendu effectivement que l'OMS classait les jeux vidéo, est-ce que dans ces cas-là, on se dit un peu, comme je le disais en introduction, allez, ça va être encore notre faute, en gros, est-ce que c'est un peu l'idée ?
C'est un peu ça, et puis c'est surtout assez inquiétant, puisqu'on voit en fait qu'on assiste à une espèce d'élargissement de la définition d'addiction, et qu'on est en train de mettre le jeu vidéo au même rang que des problèmes de santé publique qui font des dizaines de milliers de morts par an. Et pour nous, évidemment, c'est extrêmement inquiétant, parce qu'on est en train de médicaliser, de mettre le nom d'une maladie sur une pratique qui est un loisir, qui est pratiquée par énormément de monde. Il y a 31 millions de joueurs réguliers en France. Et leur dire que le jeu vidéo est potentiellement dangereux.
Personne ne dit que tout le monde peut avoir une addiction en jouant aux jeux vidéo. Moi, c'est pas ça que j'ai lu quand je lis l'OMS, en fait. Je lis que certains comportements qui sont très rares, par ailleurs, c'est aussi ce que dit l'OMS, mais c'est comme, on fait tous l'amour, on n'est pas tous addicts sexuels, on a tous joué au bandit manchot, on n'est pas devenu addict, c'est pareil pour les jeux.
Mais c'est exactement là qu'est notre inquiétude, effectivement. L'OMS dit que c'est très rare, que c'est très mal défini, qu'on a beaucoup de mal à cerner. Effectivement, il y a un manque de consensus assez fort quand même dans la communauté scientifique. Mais qu'est-ce qu'on entend depuis trois jours sur toutes les télés, les radios et les journaux français? C'est l'addiction aux jeux vidéo existe. On a vu hier une chaîne...
Mais ça existe quand même, Emmanuel Martin. Non, moi, je suis d'accord avec vous pour dire que tout le monde n'est pas addict, évidemment. Enfin, mais ça existe.
Évidemment. Non, on ne va pas nier qu'il y ait des gens qui soient perdus dans le jeu vidéo et qui jouent beaucoup trop. C'est une évidence et les médecins le constatent. Et ça fait longtemps qu'on dialogue avec les soignants et qu'on s'en rend compte. Mais de là à dire que le jeu vidéo en lui-même est un danger, là, effectivement, ça nous pose un problème.
On constate
quand même que beaucoup des gens qui viennent vous voir avec des problèmes ont aussi d'autres problématiques.
Mais je vais vous dire un truc. Dans les comportements, je connais bien l'addiction comportementale, il y a un truc qui est important, c'est que, quelle que soit l'addiction finalement, il y a des troubles en dessous. Et moi, les gens que je vois en consultation qui viennent pour des problèmes liés aux écrans, c'est-à-dire, ça peut être les jeux vidéo ou autre chose, il y a ce problème de comportement, mais l'addiction finalement, c'est quoi? C'est comme quand vous regardez un arbre, il y a des branches. Moi, je vois les gens, ils viennent pour une branche, mais en dessous, il y a plein de racines. Et tout le monde a ses problèmes dans les racines. Vous voyez? Et donc, moi, j'ai pas envie de dire, le jeu vidéo, c'est dangereux. C'est pas ça. Moi, je suis plutôt rock'n'roll, en plus. L'idée, c'est le jeu vidéo, chez certains, ça peut être inquiétant. Ça peut être inquiétant pourquoi? Parce qu'il y a des insertions scolaires, professionnelles, problèmes de famille, problèmes de couple. Et ça, vous pouvez pas le nier.
Mais on vous demande pas.
Moi, je suis pas trop fan des jeux vidéo, mais j'aime bien. Mes filles jouent aux jeux vidéo, etc. Mais il y a des problèmes avec les jeux vidéo. Il faut encadrer le problème. Et en mettant un nom, si vous voulez, sur un élément diagnostique, ça fait pas de ça un problème de santé publique majeur, avec un danger majeur et des décès. Mais moi, je soigne des gens qui sont déprimés et qui jouent aux jeux vidéo.
Mais c'est effectivement, nous, cette étiquette addiction qui nous inquiète, parce qu'aujourd'hui...
Mais c'est parce que vous en avez d'autres, en fait, peut-être, Emmanuel Martin, non? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est ce que disait aussi notre auditrice. La violence, de toute façon, c'est la faute des jeux. Donc c'est parce que c'est la dernière qu'on vous colle. Oui. Mais personnellement, moi, je trouve que c'est la moins grave, en fait, mais finalement.
La question, vraiment, ce qui nous inquiète, c'est que ça fait des années qu'on essaye d'éduquer les parents aux jeux vidéo. Mmh. Parce qu'il y a quand même quelque chose de très important, c'est qu'on a des parents qui ne jouent pas et des enfants qui jouent. Mmh. Et là, il y a un phénomène qui n'est pas partagé. On essaye d'expliquer aux parents ce que c'est que le jeu vidéo. Oui. Il y a par exemple un collectif qui s'appelle Pédagogeux, qui rassemble les pouvoirs publics, les associations familiales et le CEL, dans lequel on informe les parents. Ça fait 10 ans que ce collectif existe, tout un ensemble de ressources sur Internet, le premier maillon de la prévention, on va dire. Qu'est-ce que vont comprendre les parents maintenant qu'on leur dit que le jeu vidéo en lui-même, parce que je suis désolé, mais en disant qu'il y a une addiction au jeu vidéo, même si les spécialistes...
C'est un trouble lié à l'usage.
Oui, mais même si les spécialistes comme vous savent parfaitement ce que c'est qu'une addiction comportementale, depuis 3 jours dans les médias, on matraque l'addiction au jeu vidéo. Cela fait du jeu vidéo un danger en lui-même. Comment est-ce qu'on va permettre aux parents de s'emparer du jeu vidéo?
Ce que ça veut dire, c'est que, après on repassera au standard, Laurent Corrella, ça veut dire que c'est peut-être plus un problème de famille qu'un problème de médecine, en effet, mais qu'à un moment, la famille, elle ne sait pas, en fait.
Non, c'est un problème environnemental.
Ou alors elle fait des erreurs comme la mienne. On débranche le Wi-Fi.
Ouais, c'est-à-dire débrancher les trucs, ça marche pas, on le sait. Mais c'est un problème environnemental. Je veux dire, dans toutes les addictions comportementales, il y a quand même une part de l'environnement qui est majeure. Et justement, moi je pense que si cette prévention ne fonctionne pas, il faut revoir cette prévention. Et on vous demande pas d'étiqueter sur les jeux vidéo, l'abus de jeux vidéo est dangereux pour la santé.
Alors, pas encore. Bonsoir Christophe.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Christophe, allez-y, soyez le bienvenu.
Et merci. D'abord, merci de prendre mon appel. Je voulais poser la question, à partir de quel signe peut-on distinguer la passion, l'engagement, de l'addiction? À partir du moment où mes enfants ont fait leurs devoirs, ils sont intégrés socialement, ils font ce qu'ils doivent faire à la maison, quel est le problème s'ils ont envie de jouer 1 heure ou 2 heures et que ça n'impacte pas le reste de leur existence, j'allais dire.
Merci beaucoup, Christophe. Laurent Carrella, il y a beaucoup de questions dans ce sens-là. À quel moment on sait qu'il peut y avoir un danger d'addiction?
Il y a addiction quand il y a perte de contrôle, quand il y a perte de plaisir et quand il y a des conséquences. S'il n'y a pas ça, eh ben il y a pas ça.
C'est-à-dire que si les gamins de Christophe sèchent l'école le lendemain, par exemple, c'est là qu'on se dit attention.
Si les gamins de Christophe, je ne connais pas Christophe, mais si les gamins de Christophe se mettent à jouer non-stop toute la nuit, s'ils ont une chute des résultats scolaires, s'il y a des symptômes psychiques, type, je sais pas, irritabilité à la maison, plus de respect des règles, ça oui, ça devient compliqué. Justement, c'est comme tous les comportements, je veux dire, on peut jouer à des jeux vidéo, il y a d'ailleurs des jeux vidéo qui sont très très bien pour les performances cognitives, il y a des études d'imagerie cérébrale qui le montrent, je veux dire, il ne faut pas défoncer les jeux vidéo. L'idée, c'est il y a des gens qui ont des problèmes, on a un diagnostic qui permet d'encadrer le problème.
Et cette difficulté à cerner, est-ce qu'on est dans une forme d'addiction ou pas du tout, elle a l'air assez partagée. Bonsoir Anne-Marie.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Anne-Marie, allez-y.
Alors, moi je suis un petit peu embêtée pour vous parler des jeux vidéo parce que je ne maîtrise pas du tout, j'ai 53 ans. Par contre, j'ai une fille qui a 20 ans qui a utilisé un certain nombre de jeux vidéo où elle mettait en scène des personnages, elle construisait sa maison avec sa piscine, avec tout un tas de choses.
Second
dans
life,
un monde complètement Sims, virtuel.
Sims.
Et je lui disais, mais enfin, ma chérie, à 18 ans, tu vas faire des études, voilà, tu te construis un monde qui est complètement... Et je sentais chez l'adolescente que j'avais à la maison, ma fille, qu'elle se projetait complètement dans ce monde-là.
Ok.
Donc voilà, donc déjà ça, au niveau psy, moi je ne sais pas ce que ça peut avoir comme répercussion sur une adolescente. Après, il y a eu quelques d'autres choses, mais c'était, moi j'appelais, et c'est pour ça que vous, je ne sais pas comment vos collaborateurs ont plus ou moins décidé de me prendre à l'antenne, c'est que je voulais parler des écrans en règle générale.
Bah allez-y Anne-Marie, puisque vous êtes là, on est contente de vous parler.
J'ai des neveux, des nièces, ils sont jeunes parents, et puis ils ont leur téléphone à la main sans arrêt, je les rencontre, on parle, on prend l'apéritif, on dîne ensemble... Et puis, ils sont avec leur téléphone, à un moment donné, et puis il y a le petit bébé dans le maxi-cosy. Et puis, les parents, ils sont quand même là, toujours connectés à je ne sais quoi. Parce que moi, c'est pas ma culture.
Et vous avez du mal à comprendre ce qui se passe et surtout visiblement à capter l'attention des gens qui sont autour de vous. Merci Anne-Marie pour vos remarques et pour votre appel. Emmanuel Martin, est-ce qu'il y a selon vous sérieusement un certain nombre de jeux qui sont peut-être plus addictifs que d'autres et sur lesquels, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il faut que les parents soient plus attentifs que d'autres. Là en l'occurrence on parlait sûrement des Sims effectivement où on peut avoir un personnage virtuel qui vit sa vie. Est-ce qu'il y en a qui sont plus addictifs que d'autres ou pas?
Ça fait des années qu'on discute avec la communauté des soignants et qu'on leur pose cette question. Donc effectivement, il y a des années, on nous alertait sur les MMORPG. Ce sont des jeux de rôle massivement multijoueurs, des univers persistants en ligne. On nous disait, c'est extrêmement addictogène, le jeu n'a pas de fin, on s'investit énormément dans son personnage. Voilà. Aujourd'hui, les MMORPG sont passés de mode. Donc maintenant, on nous dit que c'est les MOBA qui sont addictogènes. C'est-à-dire des jeux, au contraire, où il n'y a pas d'histoire et où les parties sont très courtes. Ce qu'on en retient, nous, c'est qu'apparemment, il n'y a pas de jeu qui soit plus addictogène que d'autres. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi on s'interroge beaucoup sur cette classification. C'est qu'à partir du moment où dans les jeux eux-mêmes, il n'y a pas un trait et que la diversité des personnes que vous pouvez rencontrer, docteur, et qui sont en situation compliquée. Il n'y a pas un jeu qui se détache par rapport à d'autres. Il n'y a pas des mécanismes de ce qu'on appelle le gameplay qui se détache par rapport à d'autres. On se demande finalement qu'est-ce qui caractérise le jeu vidéo en tant qu'objet d'addiction.
Mais il y en a, par exemple, qui rétribuent en points le temps qu'on passe, qui permet ensuite d'avoir des récompenses, etc. Il y en a même où on achète un certain nombre de choses pour avancer. Ça fait rester devant son écran, en fait, ou pas, selon vous.
Vous savez, le jeu vidéo, c'est
si plus on passe de temps, plus on gagne de points, logiquement, on reste.
Mais c'est... Le jeu vidéo, c'est un contenu culturel. De la même façon que vous allez regarder une série et que vous avez envie d'aller voir la fin, on est dans ce même type de passion pour le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est pas du jeu d'argent, c'est pas juste une mécanique.
Il peut en avoir quand même.
Alors voilà, est-ce que c'est pas en train d'arriver, l'argent à l'intérieur des jeux?
Ça arrive.
Non, aujourd'hui, il y a une polémique sur ce qu'on appelle les loot box, qui sont des contenus avec de l'aléatoire dedans, mais qui ne sont pas des mécanismes de jeu d'argent. Il n'y a pas d'argent impliqué. On est sur des mécanismes où il y a de l'aléatoire. C'est en gros le même mécanisme que les images Panini. Vous achetez un contenu et dedans, soit vous avez de la chance et vous avez un super contenu.
C'est moins subversif, l'image Panini.
En ce moment.
C'est exactement le même style de mécanique de jeu. Et c'est des mécaniques qui sont courantes depuis des années dans les jeux vidéo, dans tous les styles de jeu. Et on ne voit pas pourquoi, une fois qu'elle passerait dans le jeu vidéo, ça deviendrait une mécanique addictogène plus qu'une autre.
Mais il y a un vrai neuromarketing comportemental quand même dans les jeux, dans les MMORPG, etc. Moi, ce que je vois, ils ont plein de problèmes. Et la matrice commune, quand même, c'est ces jeux-là. Alors, c'est vrai, j'ai des first-person shooters, c'est des gens qui jouent et qui tirent sur tout le monde, vous voyez.
D'accord.
Tout seul. Et il y a quand même ces jeux. Sans citer Fortnite quand même, les gens ils sont fous de ce jeu.
Tout le monde parle de Fortnite.
Mais oui, mais bien sûr, on va tous parler de Fortnite. Ouais. On aurait fait l'émission il y a 6 mois, on aurait parlé d'un autre jeu qui s'appelait PUBG. Ouais. Et si on fait l'émission dans 6 mois, on parlera d'un autre. C'est là où on se dit qu'il y a quand même beaucoup d'effets de mode dans le jeu vidéo.
Ce qui est normal.
Et ça permet peut-être aussi de relativiser l'impact qu'ont ces jeux-là. On nous disait il y a quelques années, tout le monde va être accro à World of Warcraft, va être accro à Candy Crush. Maintenant c'est Fortnite. Et en fait, on se rend compte qu'il y a pas de
Candy Crush, j'ai eu beaucoup de femmes quand même.
C'est effectivement le jeu sur portable a beaucoup de démocratisé.
Mais typiquement, vous citez Candy Crush, par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'obligation d'acheter finalement pour avancer. C'est le cas dans les jeux typiquement portable et tablette, effectivement, comme Candy Crush. Et l'argent est impliqué à l'intérieur parce qu'effectivement, le seul moyen d'avancer, c'est d'acheter des choses au fur et à mesure et ça finit par coûter cher.
95% des joueurs de Candy Crush ne dépensent pas d'argent. Donc il faut rester, ce sont des jeux auxquels on peut jouer de toute façon tout à fait gratuite. Et puis, c'est leur modèle, leur business model, comme on dit. C'est-à-dire que ce sont des jeux qui sont gratuits, mais qui se rémunèrent par des petits achats à l'intérieur du jeu. C'est une mécanique qui en soi n'a rien de spectaculaire.
Et alors, Laurent Carré, il a deux choses. Ça veut dire qu'on parle autant de Fortnite que de Candy Crush, c'est-à-dire des trucs très élaborés comme des choses qui sont simplissimes,
on est d'accord, il y a Minecraft aussi, tous ces jeux-là. Mais c'est des effets de mode, en fait. C'est des effets de mode, des effets de courte récréation. Il y a un peu de tout. Et je pense que, encore une fois, jouer c'est bien, après il faut savoir jouer, il faut éduquer les parents ils comprennent rien.
Oui, alors effectivement, ils comprennent rien et on les éduque comment? On leur explique comment ça marche? On leur montre comment fonctionne le jeu?
Moi je leur dis aux parents, jouez avec vos enfants. Les pères, les papas, jouez un peu avec vos enfants. Jouez un peu, regardez ce qu'ils font.
Juste une dernière chose avec la question d'Anne-Marie tout à l'heure, je ne voudrais pas zapper cette partie-là. Elle parlait des écrans d'une manière générale. Est-ce qu'on le place sur le même plan, en fait, avoir son œil sur son portable toute la journée et jouer aux jeux vidéo, c'est pareil selon vous ?
Oui, c'est pareil. C'est les écrans plutôt. Moi, j'aurais bien aimé un diagnostic troublé à l'usage des écrans, en fait, et avec des sous-classifications.
Bonsoir Arnaud.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute. C'est une question pour Emmanuel Martin, la vôtre. Allez-y.
Ben, du coup, moi, je voulais savoir, en fait, si le paradigme est, au niveau de mode de consommation du jeu vidéo n'était pas en grande partie dû aux éditeurs et aux développeurs eux-mêmes qui, en choisissant des modèles économiques gratuits et avec des récompenses en jeu moyenne et en finance, avaient créé tout un système de mécanismes hyper addictifs tels que les connexions quotidiennes, les loot boxes. Alors, en français, on dirait que ce sont des récompenses aléatoires en jeu, mais qui, du coup, avec différents degrés de rareté des objets, génèrent de la fausse hype ou spéculation, je ne sais pas trop comment expliquer. Et du coup, qui crée des comportements bien plus addictifs que les jeux eux-mêmes. Et c'est là où je rejoindrai un peu votre intervenant. Ce n'est pas tant le type de jeu que le modèle économique qui crée de l'addiction, en fait.
Merci Arnaud pour cette remarque. Le free-to-play, effectivement, le fait que ce soit gratuit, tout le monde y va, c'est facile. Et derrière, c'est ce que nous racontait Arnaud, effectivement, les achats, les récompenses, etc.
Alors, d'après ce que je sais, les free-to-play ne sont pas les jeux majoritairement qui amènent les gens devant consultation. Donc, ça mérite d'être relativisé. Ensuite, les éditeurs et les créateurs de jeux, effectivement, ils ont envie que le plus de monde possible joue à leurs jeux. Ce sont des créateurs d'univers. Et c'est là où, moi, je fais une distinction entre le jeu vidéo et les écrans en général. C'est que les jeux vidéo, ça commène des objets culturels. Ce sont des créateurs qui veulent partager des univers. Ça raconte des histoires. Ça fait vivre aux gens des choses magnifiques. Et ces modèles économiques, ce sont aussi des réponses à la façon dont les nouveaux usages numériques comment les consommateurs consomment les jeux vidéo. Donc, en soi, il n'y a pas dans le modèle du free-to-play quelque chose de déloyal. C'est simplement une nouvelle façon de consommer. On voit que c'est quelque chose aujourd'hui qui a été créé dans le jeu vidéo, mais qu'on voit partout dans énormément de médias.
Laurent Carilla, est-ce qu'on peut, vous disiez, il faut que les parents, par exemple, apprennent à jouer avec les enfants, voir un peu où on en est. Est-ce qu'il y a une prévention possible, en fait? Ça existe, ça, une prévention ou pas?
Bien sûr qu'il y a une prévention possible. Elle est déjà partiellement mise en jeu, mais il va falloir revoir, à mon avis, la question. Moi, je serais ravi de travailler avec vous, parce que pour voir comment informer les gens différemment. Mais c'est vrai que...
Je vous pose la question parce que j'ai l'impression que c'est comme n'importe quelle addiction. Au début, tout va bien. On est tous à des données raisonnables, des temps raisonnables. Et puis, paf, il y a un moment de basculement, en fait.
Oui, ça c'est le schéma classique du comportement addictif. Mais en termes de prévention, c'est plutôt informer les gens, informer les parents avec leurs enfants sur la question de ces jeux, la question des écrans... la question du temps passé, parce que les questions qui reviennent tout le temps, c'est mon fils, ma fille passe un temps,
jour,
voilà, c'est le temps, le temps, ouais. le temps. Mais c'est pas une question de temps, en fait. On voit, cette question de temps, elle est complexe, en fait. Parce que vous avez des hardcore gamers, des gros joueurs qui jouent beaucoup, beaucoup, et qui n'ont aucun problème. Donc il faut aller sur les autres critères, en fait. Et vraiment, c'est perte de contrôle et conséquences.
Et justement, cette question de Charlie, tiens, sur franceinter.fr, est-ce qu'il faut empêcher les personnes fragiles, donc présentant des risques, d'accéder aux jeux vidéo?
Il faut pouvoir les repérer déjà, ces personnes fragiles. On les voit plutôt au stade de complications, les personnes fragiles, en fait. C'est pour ça qu'il faut informer les gens, quand même.
Bonsoir, Julien.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Julien, soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir, merci de prendre la question. Je voulais savoir ce que vos invités pensaient du DMS, qui en fait classifie les maladies mentales.
Le DSM.
Le DSM, oui, excusez-moi. Et notamment qu'on accuse d'être lié au lobby pharmaceutique pour vendre des molécules. Donc ça, c'était une première question. Et la deuxième, c'est est-ce que on n'est pas plutôt sur la symptomologie, c'est-à-dire qu'en fait l'addiction c'est un symptôme et qu'on ferait mieux de traiter la question de pourquoi est-ce que les gens ont besoin de s'évader et que c'est plutôt un problème de société.
Merci.
Voilà.
Merci Julien, c'est ce que vous faites Laurent Carilla, non, j'imagine que vous allez le chercher derrière le jeu.
Exactement, alors pour répondre à la première question, le DSM c'est la classification de l'association psychiatrique américaine, où le jeu n'est pas classé, mais il y a une case recherche sur tout ce qui est internet, etc. Elle n'est pas liée au lobby pharmaceutique, si vous voulez, le DSM nous permet de faire des études, de manière, on va dire, très homogène à travers le monde. Et c'est vrai que les mutuelles américaines regardent les diagnostics DSM. Après, voilà. Pour le deuxième point, évidemment, l'addiction, c'est une vraie maladie. C'est une maladie du comportement, c'est une maladie neurobiologique, c'est une maladie de l'environnement, surtout. C'est pas qu'un symptôme, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient avec une addiction, on va le traiter, mais bien évidemment, on va traiter, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est on va traiter les racines aussi. Et on le traite à plusieurs, dans un service ou dans une équipe.
Bonsoir Marion.
Bonsoir.
Allez-y, je suis contente d'avoir une femme qui joue un peu. Allez-y, Marion.
Ben voilà, je suis ravie de représenter les femmes qui jouent. Alors moi je suis ce qu'on appelle une geek, donc je passe beaucoup de temps sur les jeux vidéo, mais pas seulement, je suis très intéressée par tout ce qui tourne autour, Internet et d'une manière générale. Mm-hmm. Et en fait, je voudrais apporter un double témoignage. Premièrement, mon expérience à moi, je joue régulièrement, par moments je joue plus que d'autres, et j'ai rencontré mon conjoint sur World of Warcraft, on s'est mariés, donc voilà, premier exemple que le jeu vidéo n'est pas forcément quelque chose...
Vous êtes mariés, vraiment mariés, ou vous n'êtes pas mariés virtuellement?
Non, on est mariés, on s'est mariés à la mairie, avec des témoins, la famille, etc., tout à fait normal.
Mais voilà. En costume de World of Warcraft?
Non, un mariage tout à fait classique. Un mariage normal.
Vous n'êtes pas une vraie geek alors?
Ouais, je ne suis peut-être pas une vraie geek effectivement. Mais alors là, voilà, justement, je voulais en venir au deuxième point et parler un petit peu de mon petit frère qui a 4 ans de moins que moi et qui, lui, quand il était ado, jouait beaucoup. Jouait à des jeux à World of Warcraft, à des jeux comme Counter-Strike. Donc là, on est dans du jeu de tir où on doit éliminer l'équipe adverse. Et en fait, ado, mon petit frère passait beaucoup de temps sur les jeux vidéo, à tel point que, par exemple, le soir, il était dans ce qu'on appelle en raid, donc il jouait en équipe, donc il pouvait pas bien manger. Donc on lui a mis l'assiette, il mangeait devant son jeu. Et bon, on a vécu comme ça un temps. Quand il finissait ses parties, il venait nous voir. Et puis ensuite, en grandissant, vers 17-18 ans, ça s'est calmé, il s'est mis à moins jouer. Et maintenant, il joue de façon très, très exceptionnelle. Et même dans mes amis qui ont une trentaine d'années, il y a toujours des gens qui, par moment, passent beaucoup de temps à jouer. Mmh. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, le jeu vidéo, ça peut être un moyen de se sociabiliser quand on est quelqu'un de timide, quand on est quelqu'un qui ne rencontre pas des gens via les canaux classiques, sortir en boîte ou aller dans des bars. Le jeu vidéo, ça permet de rencontrer des gens qui nous ressemblent, avec des centres d'intérêt qui nous ressemblent, différent de ce qu'on attend d'habitude.
Et Marion, juste une curiosité, puisque vous avez votre expérience à vous, qui est un peu plus âgée, est-ce que vous avez du coup regardé un moment votre petit frère en disant « je le surveille quand même du coin de l'œil pour voir comment il évolue » et puis vous vous êtes rendu compte que tout va bien finalement? Est-ce que vous avez eu ce genre d'inquiétude ou pas du tout en fait? Parce que vous aussi, vous êtes passé par cette phase où effectivement vous mangiez sur le pouce devant votre aide.
Alors moi, ado, je jouais peu. Par contre, j'étais une très très grosse lectrice et par contre, j'ai vécu à manger en lisant, à aller aux toilettes en lisant, parce que la lecture, c'était mon seul centre d'intérêt. Et j'ai un petit peu l'impression qu'on diabolise le jeu vidéo, comme à une époque, on a pu diaboliser la lecture en disant que la lecture coupait du monde. Et je suis d'accord, d'une certaine façon, la lecture coupe du monde, mais le jeu vidéo, à mon sens, coupe beaucoup moins du monde que la lecture, et notamment le jeu en ligne, en communauté, parce qu'on a quand même une sociabilisation à travers le jeu vidéo. Et pour reprendre l'exemple de mon petit frère, alors quand il était ado, vers 14-15 ans, j'habitais plus avec lui, j'étais partie faire mes études, donc je sais voilà ce que j'ai vu pendant les vacances, ce que ma mère m'en a dit, mais il jouait beaucoup, et oui, c'était préoccupant, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez faire avec un ado qui a un centre d'intérêt et une passion, en l'occurrence passionnée de jeux vidéo, et donc, on fait quoi? On enlève la passion à la personne, on le prive de ce qui le rend heureux, ou alors on l'accompagne, et puis après ça passe ou ça passe pas. Je joue avec des gens qui ont 40, 50 ans et qui sont des gros joueurs, qui ont une vie de famille à côté et l'un n'empêche pas l'autre.
Voilà, après ça finit chez Laurent Carilla ou pas. Merci beaucoup Marion pour ce témoignage, Emmanuel Martin. Il y a un côté socialisation effectivement dans le jeu vidéo dès lors qu'il est en ligne par exemple, comme dit Marion.
Bien sûr, le jeu vidéo, pendant longtemps on a joué seul face à son ordinateur contre l'ordinateur. Maintenant on joue ensemble, on joue les uns avec les autres, les uns contre les autres. Il y a toute cette nouvelle dimension qui s'appelle l'e-sport, c'est les compétitions de jeux vidéo où on joue en équipe. Ou seul, enfin en tout cas dans un mode où on a des adversaires et où forcément on discute. Et le jeu vidéo aujourd'hui est un vrai marqueur de lien social. C'est on se fait des amis, on rencontre des gens, comme le disait votre auditrice qui a rencontré son conjoint sur un jeu vidéo, ça arrive.
Alors tiens, j'ai une autre personne qui parle de son conjoint, mais en tout autre terme, c'est Marianne qui est dans le 10e arrondissement à Paris. Je suis en couple avec un jeune de 24 ans qui a une période compliquée. Pendant 4 ans, il n'est pas sorti, il est devenu addict aux jeux vidéo. Il est capable de voir des gens jouer pendant des heures sans jouer. Lui-même, même, j'ai l'impression de voir un gamin. C'est ce genre de signe. Il faut s'inquiéter de ce genre de signe.
Faut au moins se faire évaluer.
Il y a probablement
des choses en dessous, mais il faut se faire évaluer.
Un joueur avec nous au 01 45 24 7000. Bonsoir Clément.
Bonsoir. Bonsoir.
Allez-y Clément.
Je vous appelais pour en tant que joueur. D'ailleurs aujourd'hui je suis casu. Alors comment dire, un joueur occasionnel.
D'accord. Bah j'allais dire parce que vous avez lâché votre jeu pour nous appeler. Donc c'est que vous êtes sorti des ronces.
Ouais c'est ça exactement. Pendant longtemps j'ai été un gros joueur et étant jeune j'étais un gros joueur. J'ai d'ailleurs foutu quelques temps mes études de côté pour ça. Et je voulais réagir en fait sur le fait que pour beaucoup de jeunes joueurs en fait qui comprennent pas nécessairement dans le monde dans lequel ils vivent ou la société comment elle fonctionne, ils vont arriver à comprendre un système plus facilement parce qu'il leur est déjà mis à portée de main. Souvent c'est des systèmes qui sont assez binaires parce que voilà c'est un jeu vidéo donc c'est ludique. Et ce que comprennent pas les anciennes générations qui jouent pas, c'est le besoin qu'ont ces nouvelles générations, en fait, de se représenter là-dedans, de se retrouver et en fait d'avoir une place où ils sont intégrés parce qu'ils comprennent ce système-là. On se retrouve aujourd'hui avec des gens qui restent enfermés, qui sortent pas, et voilà, comme d'autres qui se rencontrent en restant enfermés, ce qui je trouve assez fabuleux. Mais je pense que le plus important, c'est d'établir un lien en fait entre les anciennes générations. Qui ne comprennent pas en fait parce qu'elles sont établies dans ce système qui est notre société depuis longtemps et les nouvelles en fait qui elles en fait n'y sont pas du tout.
Mais vous l'avez montré Clément, est-ce que vous avez montré ce que vous faisiez, votre jeu à vos parents, à des gens plus âgés que vous ou pas? Est-ce que vous avez joué ce jeu que vous dites aujourd'hui?
On m'a coupé le wifi pendant un petit moment.
Qu'est-ce que je disais?
Et voilà, mais il s'avère que derrière ça, il y a eu quand même beaucoup de communication au sein de ma famille, donc j'ai pas mal de chance. Et qu'aujourd'hui j'ai d'autres centres d'intérêt. Bon, la musique, d'ailleurs, on sait de la musique, mais toujours est-il que le but, c'était pour mes parents, pas forcément de comprendre, de me faire sortir, en fait. Là où ça a été important pour moi, c'est qu'à côté de ça, ils ont quand même cherché à me faire comprendre la société dans laquelle je vivais et comment elle fonctionnait. Et ils m'ont donné une place là-dedans en me disant genre t'as un but, c'est comme un jeu si on veut, mais t'as ta place, t'as ton rôle et le caractère que t'as une vie et tu peux la remplir correctement. Alors vas-y éclate-toi quoi.
Et donc apparemment pour vous ça a marché. Merci beaucoup Clément pour ce témoignage. Emmanuel Martin là, Clément est jeune et il parle des jeunes qui se sentent pas tout à fait à leur place et qui se réfugient derrière les jeux vidéo. Moi je suis assez curieuse de la proportion en fait des jeunes et des moins jeunes aux jeux vidéo parce que c'est pas que une histoire de jeunes en fait.
Bien sûr, l'âge moyen des joueurs aujourd'hui en France, donc 31 millions de joueurs en France qui jouent régulièrement, c'est-à-dire au moins 2 à 3 fois par semaine, et l'âge moyen c'est 34 ans.
Et donc c'est pas si jeune en fait.
Ben non, on a notre première génération de parents gamers. Ouais. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on a effectivement eu pendant longtemps ce décalage entre des parents qui ne jouaient pas et des enfants qui jouent et qui est vraiment la source pour nous de ce désarroi quelquefois autour du jeu vidéo. Et c'est pour cela que nous pensons que c'est une erreur de stigmatiser le jeu vidéo avec le mot addiction et de le médicaliser en fait. Mais on voit arriver cette génération de parents gamers et on pense que cette acculturation au jeu vidéo, les familles vont digérer le jeu vidéo. Et de la même façon qu'on a pensé qu'on allait tous être addicts à la télé et tout, ben aujourd'hui le jeu vidéo va rentrer dans les mœurs et on pense que cette addiction au jeu vidéo va disparaître d'ici quelques années.
Laurent Carilla, est-ce que on peut dissoudre l'addiction dans son éparpillement finalement, si ça transcende les générations?
Donc, il y a addiction. C'est difficile à dissoudre. Mais je pense que vous ne devriez pas être si attristé que ça, qu'on médicalise les choses, parce que ça aide à donner un cadre, en fait, à des gens qui souffrent, aux parents qui souffrent. Ça va donner un cadre à la prévention, ça va donner un cadre aux soins, et ça va donner un cadre global pour tout, quoi, pour aider ces gens-là. Donc, je pense que... Je pense que c'est pas une erreur de le faire. Encore une fois, je pense à un trouble lié à l'usage, c'est un usage excessif, c'est un hyper-usage. C'est comportemental de jouer. Le jeu vidéo, c'est très bien, encore une fois. C'est comme le sexe, c'est très bien. C'est comme... Après, il y a quand même des faits, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui viennent pour ça, quoi. Mais ils viennent, ils souffrent.
Et encore une fois, il est hors de question de ma part de le nier.
Ouais. La question et qu'on c'est se pose, une minorité c'est... des
oui,
joueurs.
Voilà, mais est-ce qu'on va aider la majorité? Et je pense effectivement non, que là, avec un discours aussi anxiogène,
on va créer
énormément de personnes qui
Vont
venir vous voir. Et on va avoir énormément de personnes qui vont venir vous voir, de familles qui vont venir vous voir.
On pensait que vous risquiez, alors c'est intéressant ce qu'il dit Emmanuel Martin, Laurent Carilla, est-ce que le risque, c'est qu'à partir du moment où un gamin joue plus de 3 heures l'après-midi, les parents arrivent en le tenant par la main dans votre cabinet en disant il est addict au jeu alors que c'est pas
mal. Non, je pense pas.
Le risque, c'est qu'ils iront peut-être voir un médecin généraliste qui connaîtra pas trop le jeu vidéo et peut-être que, effectivement, le labo pharmaceutique va avoir l'idée d'une super molécule.
Je
crois qu'on l'espère tous pas.
Non, j'espère pas ça. Vraiment, les techniques pour traiter ces... Oui, c'est un risque. Vous avez raison, c'est un risque. Mais les techniques pour traiter les gens pour les addictions comportementales, il n'y a pas d'abstinence en comportement, donc il n'y aura pas d'abstinence en jeu vidéo. Deux, c'est à réapprendre à avoir du plaisir à jouer, parce que ceux qu'on voit, quand même, ils souffrent globalement, ils sont complètement désinsérés, quoi. Et ils ne vont plus à l'école. Moi, j'ai vu des gamins de 16, 17 ans plus aller à l'école, quoi. Et c'est plutôt des techniques de thérapie comportementale. Donc on va traiter la branche de l'arbre et après on verra les racines.
Barbara, bonsoir.
Oui, bonsoir.
C'est vous la dernière, Barbara, on vous écoute.
Bon, d'accord. Mais moi, je suis d'accord avec les deux côtés, hein, parce que voilà, le jeu vidéo n'est pas.
Vous êtes réconcilié tout le monde, vous pouvez accrocher maintenant.
Par contre, c'est dans l'accompagnement qu'il est très important d'accompagner les enfants. Moi, je travaille dans les écoles et je suis très choquée par ce que les enfants peuvent dire entre eux par rapport au jeu. Alors les zombies, je leur tire dans la tête, enfin machin et tout. Moi, déjà, je comprends pas comment on peut jouer un jeu de guerre. La guerre n'est pas un jeu. Donc voilà, c'est dans l'éducation des enfants. C'est très important. Moi, mon fils a 20 ans, j'ai 52 ans, j'ai joué avec lui aux jeux vidéo et c'était que des jeux vraiment bon style, je sais pas, Ratchet, Crash Nitro Kart. Bon, c'est vieux, ça va vous paraître un truc...
Non, on dit Emmanuel Martin avec la tête. Il dit que c'est génial.
Voilà, c'était pour c'était joyeux, c'était coloré, c'était ludique. Enfin, voilà. On tuait Ratchet, il tuait, mais c'était des extraterrestres, des choses improbables. Ce n'était pas du tout... des zombies ou des gens comme Call of Duty là où on... enfin bon bref moi c'est je sais de quoi je parle. Il y a des jeux vraiment qui sont dangereux et que enfin pas dangereux mais que vraiment les parents doivent accompagner les enfants et pas les laisser devant les jeux sans tout seul comme ça c'est pas possible. Quand j'entends qu'on compare les jeux à la lecture, moi je bondis parce que la lecture
c'est pas pareil. Selon vous, c'est pas pareil, Barbara. Merci beaucoup. Emmanuel Martin, vous vouliez répondre, vous voyez réagir à ce que disait Barbara.
Oui, tout à fait. C'est vraiment essentiel que les parents s'approprient le jeu vidéo. L'industrie a mis en place le système PEGI qui permet de savoir quel jeu est adapté, les classements par âge.
C'est pas très respecté par les parents.
Exactement. Mais c'est pour ça qu'on communique énormément sur PEGI, qu'on fait des campagnes, parce que il faut choisir
les
jeux.
Les limites d'âge qu'il y a sur les jeux vidéo,
évidemment, exactement. Barbara nous parle de jeux qui sont déconseillés aux moins de 18 ans et joués par des gens très jeunes.
Moi aussi, j'ai acheté des Call of Duty pour mon neveu qui a pas 18 ans, qu'il n'avait pas 18 ans à ce moment-là.
C'est effectivement, il faut faire attention à ça. Et puis après, il y a tous les conseils de bon sens. Jouer avec ses enfants en étant. Il faut vraiment que les parents arrivent à s'investir là-dedans. Parce que c'est très important. C'est un loisir magnifique et il faut le partager.
Tiens, Laurent Carilla, je vous donne la conclusion. Ouais. Avec cette méthode qui va intéresser les médecins que vous êtes, pour lutter contre l'addiction aux jeux vidéo, ma fille devait faire un quart d'heure de piano pour une heure de jeux vidéo. Super résultat, dit-elle.
C'est de la récompense. C'est la technique comportementale de récompense.
Ou la punition. Si ça avait été moi, le quart d'heure de piano, je vous jure, ça aurait été une punition.
Ça peut être de la guitare électrique.
Merci à tous, portez-vous bien.